59-59. Merci de nous rappeler. Ciao.
Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo.
Radio Libertaire, 89.4, les chroniques syndicales et la philosophie de l'ouvrier charpentier, avec Philippe Godard autour d'un ouvrage à la fois petit mais très conséquent et très lisible et qui nous mettra en garde contre un certain nombre de choses, le titre étant « Le pouvoir selon Google » avec un sous-titre, ou plutôt un suivi, un petit guide pratique pour résister à Google. Et donc, Philippe aurait dû être avec moi, mais notre charpentier philosophe est cloué au fond de son lit, donc je serai seul à animer cette émission. Radio Libertaire, 89.4.
La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. La tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Radio Libertaire, 89.4, c'était Boris Vian, La complainte du progrès.
On va parler progrès, c'est le cas de le dire, avec Philippe Godard autour d'un livre aux éditions du Monde Libertaire, Le pouvoir de Google. Et dire aussi qu'à partir de 16h, on se retrouve à Publico pour dire les choses très directement, si j'ose dire, avec nos auditeurs ou d'autres personnes qui n'auraient pas pu écouter l'émission. Donc Philippe, d'abord, avant de parler Google, hein, puisque c'est une langue internationale maintenant, il y avait l'espéranto, maintenant on a le Google.
D'une certaine manière.
D'une certaine manière. Voilà. Qui es-tu ?
Alors,
qui suis-je? Ah, c'est une question.
Une question qui est. Alors, je vais dire ce que je suis par rapport à Google très rapidement, parce que disons que l'origine du livre, ou plutôt l'origine de ma critique de Google, elle date de très longtemps. Google a été fondé en 98, et il se trouve qu'en 99, moi, j'ai commencé à travailler pour l'encyclopédie Hachette Multimédia, et donc pour faire tourner notre encyclopédie chez Hachette. Où je précise que c'était un tout petit segment hein, de Hachette, et on faisait vraiment ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on décidait vraiment des articles qu'il fallait écrire ou qu'il fallait refondre. C'était vraiment intéressant sur le plan de la connaissance. Par exemple, j'ai pu écrire des notices sur Malcolm X, sur Mein Kampf. Il n'y avait pas de notice digne de ce nom sur Mein Kampf, expliquant réellement comment ça fonctionnait ce bouquin, etc. Sur les situationnistes, etc. C'était vraiment un endroit qui était intéressant. Et donc, on avait beaucoup de discussions avec les... On n'était pas nombreux, on était 4 ou 5, à part les informaticiens. Et on avait beaucoup de discussions avec le directeur éditorial et puis le directeur de l'encyclopédie Hachette Multimédia. Et puis, je me suis aperçu que... En fait, ils ne voyaient pas le danger qu'allaient représenter les moteurs de recherche pour l'encyclopédie. Je ne dis pas ça pour défendre l'encyclopédie Hachette, hein, surtout pas, mais pour défendre l'idée de l'encyclopédie, parce que c'est une idée qui me semble positive, tout simplement, parce que je trouve que c'est intéressant éventuellement de pouvoir se référer à quelque chose qui fait le tour des connaissances, qui essaye d'apporter des éléments de réflexion, etc.
Sachant que depuis Google, elles ont toutes disparu sous la forme papier, quoi.
Et elles ont toutes disparu.
L'Universalis, la Britannica ou d'autres.
Ah oui, elles ont toutes disparu, c'est fou. C'est quand même complètement incroyable qu'une idée culturelle comme ça, qui avait quand même plus de 250 ans d'existence, a disparu comme par enchantement. Et donc, ce qui me surprenait dans les discussions avec eux, c'est qu'ils ne se rendaient pas compte qu'on allait être complètement dépassé par ce moteur de recherche qui fonctionnait extrêmement bien. Et on allait être dépassé pour une raison bien simple, c'est que l'encyclopédie, nous d'abord, fallait l'acheter. Elle était sur un CD et puis après sur un DVD. Donc elle ne coûtait pas très cher comparé à l'encyclopédie papier. Mais cela dit, fallait l'acheter. Et puis, nous, c'était actualisé que tous les ans. C'est tous les ans qu'il y avait une nouvelle version du CD ou du DVD. Ce qui fait que si on voulait avoir le nom du nouveau président de, par exemple en Inde, est-ce que Modi a été réélu, avec l'encyclopédie Hachette, je ne sais plus à quel mois elle sortait, mais donc en septembre, il fallait attendre jusqu'au mois de septembre pour savoir que Modi avait été réélu au mois d'avril. Et ça, c'est pas possible dans notre monde actuel où il y a la culture de l'immédiateté qui règne, on veut tout savoir immédiatement. Donc, ils se rendaient pas compte que l'encyclopédie allait disparaître. C'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu de moins en moins de boulot. Et puis, j'ai été viré en 2005. Cela dit, le directeur et tout le monde de l'encyclopédie a été viré en 2006 et 2007. Hein. Même la grande directrice de Hachette Multimédia, donc pas seulement encyclopédie, tous les trucs multimédia que faisait Hachette, tout ça, ça a disparu en 2007. Voilà. Et donc, à cette époque-là, moi je faisais beaucoup d'interventions dans les écoles. J'essaye d'en faire encore, bien que ce soit difficile, du fait que le gouvernement l'État a inventé un truc qui s'appelle Pass Culture, qui est une société privée, et que je boycotte. Et donc quand on boycotte Pass Culture, c'est très difficile d'aller dans les collèges et les lycées. Donc j'ai pu faire des interventions dans le milieu scolaire, contre Facebook, qui avait été créé en 2004, et puis aussi contre Google, très précisément, contre cette idée de ce que Google appelait à l'époque la personnalisation des données. C'est-à-dire que si on commence à chercher quelque chose sur Google, mettons, on cherche quelque chose sur la chasse, mettons, on va prendre la chasse.
Oui, c'est un thème qu'on aime bien, Radio Liberté, voilà, en plus de la chasse.
Alors, on va prendre quelque chose sur la chasse. Après, on va chercher, par exemple, des trucs sur le sport. Après, on va chercher des trucs sur les armes. Là, je caricature un peu, mais c'est quand même ça. Et puis, finalement, après, on va chercher des trucs sur la politique. Y a pas mal de chances, après avoir pris chasse, les armes, et puis, le sport, qu'on se retrouve plutôt sur le site, enfin que Google conseille plutôt le site du Front National ou peut-être des Républicains que le site de la Fédération Anarchiste, par exemple.
Par exemple.
De même si, dans un autre sens, on va prendre des trucs sur le végétarisme et puis mettons l'écologie et puis qu'un jour on va chercher quelque chose sur Bouddha, il y a plus de chances qu'on se retrouve là avec forcément les mouvements écolos, etc.
Oui, c'est-à-dire que Google, voilà. analyse ses demandes et en fonction de ça ne fera que te satisfaire quoi. Et donc voilà. Plus d'esprit critique d'une certaine manière et plus de contradictions par rapport à ce que tu peux penser ou avoir analysé quoi.
Et c'était assez facile d'expliquer ça aux jeunes, enfin aux gamins puis aussi aux profs parce que d'ailleurs les profs ils comprenaient pas trop ce truc là. Enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens à l'époque qui comprenaient pas. Mais au bout d'un certain temps c'est la mort de la démocratie. Là je veux pas faire pas me faire l'avocat de la démocratie sous sa forme actuelle, mais en tout cas le fait qu'on puisse débattre ensemble, si on prend la démocratie dans le sens vraiment complètement basique, le fait qu'on puisse débattre ensemble, bah, au bout d'un certain temps, avec la personnalisation des données, on pourra plus débattre ensemble. Parce que s'il y en a un qui va plutôt chercher sur chasse, patati, patata, et puis l'autre qui va plutôt chercher sur l'écologie, et puis que la prof, elle organise, ou le prof organise un débat, mettons, sur la paix, les élèves dans la classe, ils n'organisent pas de débat de toute façon, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais si le débat avait été possible, la discussion entre les élèves aurait été impossible, tout simplement parce qu'il y en aurait un qui aurait dit « Mais oui, mais c'est ça, ça, ça et ça, j'ai vu ça sur Google », et puis l'autre dirait exactement l'inverse, il l'aurait aussi vu sur Google. Mmh. Donc, pour qu'on puisse discuter ensemble, même avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, il faut qu'il y ait quand même un terrain commun, avec des mots communs, et puis qu'on arrive à s'entendre sur deux, trois trucs à peu près objectifs. Mmh. Or, on est quand même arrivé au fur et à mesure dans les années 2010 et puis au début des années 2020, on est quand même arrivé parfois à des trucs complètement caricaturaux hein, dans les écoles. Par exemple, un jour dans un collège, des élèves de 3e qui finissent par me dire, alors pas tous hein, évidemment, mais que l'homme a pas marché sur la Lune en 1969. Bon, je leur dis d'accord, enfin moi ça me dérange pas s'ils pensent que l'homme a pas marché sur la Lune, peu importe. Mais je leur demande comment est-ce qu'ils le savent. Et donc, ils le savaient parce que quand ils étaient allés regarder sur Google, ils avaient vu que il n'y avait pas de fusée. En 1969, il n'y avait pas de fusée. Alors là, évidemment,
problème.
Donc là, quand même, je leur dis qu'il y a des fusées. Enfin, je leur explique un peu l'histoire des fusées. Donc, je leur dis que ça, c'est faux. Puis après, je leur dis, mais pour les images, alors comment est-ce qu'ils ont fait? Bah, les images des hommes sur la Lune, ils les ont retouchées avec Photoshop. Ah, bah là, je leur dis, en 69, il se trouve qu'il y avait des fusées, mais il n'y avait pas Photoshop. Alors après, vous pensez ce que vous voulez. Les Américains ont ou pas marché sur la Lune, à la limite, peu importe. Ils pensent ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ils peuvent pas dire qu'il n'y avait pas de fusée en 69.
C'est la question de la preuve et puis de la source, quoi. Et vérifier que la source est fiable.
Et puis là, du coup, de la manipulation, une manipulation qui est complètement obscure et complètement cachée, puisque de toute façon, ils soutenaient. Alors, ils n'ont pas soutenu Mordicus longtemps, parce que j'ai quand même apporté deux, trois arguments, puis je pense qu'ils ont quand même eu des doutes. Mais ils arrivaient à soutenir Mordicus qu'il n'y avait pas de fusée en 69 et qu'on retouchait les photos avec Photoshop.
Ouais. Ouais.
Voilà, c'est ça que ça produisait, en fait. Ouais. C'est ça que ça produit toujours.
Hein, de l'inculture, quoi.
Bah, de l'inculture et puis du. Et puis on voit bien avec le développement aujourd'hui sur certaines questions, par exemple le réchauffement climatique. Bon, il y a pas de réchauffement climatique, il y a quand même des sites qui arrivent à expliquer qu'il y a pas de réchauffement climatique du tout. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il fait particulièrement froid, donc.
Mais ou alors les gens, il faut pas confondre réchauffement climatique et météo quoi.
Ah oui, bah, oui. Ouais. Alors et la Terre est plate. Alors il paraît qu'en France on est à 8% de platistes. Alors je sais pas si c'est vrai parce que.
Ouais, comment ça, il est contre quoi.
Ouais, ouais, parce que ça, là il y a quand même de savoir. Quand même la question de savoir comment ils les comptent. Il n'y a pas tellement longtemps, donc moi j'habite dans le Jura, il n'y a pas tellement longtemps, dans une réunion, on entend quand même des gens qui nient toutes sortes de choses, y compris la Shoah, qui nient, etc., etc. Ça finit par devenir grave, quoi, parce que on est enfermé. Enfin, certaines personnes se retrouvent complètement enfermées dans des croyances, mais eux ils croient que c'est des faits objectifs. Et je crois que pour le coup, Google ou les autres moteurs de recherche, de toute façon, ont une responsabilité là-dedans qui est imminente et grave.
Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est pas track, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les buses qui abusent, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, les options en option, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. J'ai invité la belle Suzanne l'autre jour au cybercafé. Elle m'a dit:
je préfère ta bécane, allons chez toi, fais-moi surfer.
Hélas, ma machine est en panne. Galère. Que je lui réponds, je suis désolé. J'ai le Mac qui patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, ouais. Le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, pas le dur. Modem qu'à la flemme, la mémoire sans espoir, les options en option, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros, ouais. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki, j'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelle, USB constipé, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, moniteur est un seul. En plus de ça, je vous cache pas, j'ai aussi quels soucis. Les octets pas très frais, les virus plein de tonus, les majuscules qui se bousculent, les minuscules qui copulent, le Windows qui est morose, les programmes c'est un drame, et la puce en lotus, le cordon en tire-bouchon, les MS-DOS qui a des bosses, les menus magnifiques, le logiciel mon mari, et l'audio qui est idiot, la carte son qui est marron, la couleur, quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'affolent, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau, et du coup, voyez-vous, il vaut mieux que vous partiez, car je sens, c'est navrant, je peux plus rien maîtriser. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Ah mon Dieu que c'est affolant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est affolant, mais qu'est-ce qu'on ferait sans.
Radio Libertaire, c'était l'informatique, chanson plus bis fluoré.
De Philippe Godard autour d'un petit livre passionnant publié aux éditions du Monde Libertaire, Le pouvoir selon Google. Alors on va parler Google, et dans les pages que tu évoques, tu dis que Google c'est un capitalisme de conditionnement et de contrôle, et qui s'appuie sur des théories anciennes, Skinner, voire Pavlov, et puis un dénommé Nozick, alors, qui est lui plutôt un économiste. Alors comment Google utilise ses références savantes d'ailleurs pour mettre en place un système de domination mondiale.
La première chose qu'il faut dire, c'est que dans le gros livre qu'a fait paraître le PDG de Google en 2013, hein, qui s'appelle Le Nouvel Âge Digital, donc en anglais New Digital Age, il y a strictement aucun penseur qui est cité. Donc on a l'impression que...
Il a tout inventé.
Oui, c'est ça. Ils donnent l'impression qu'ils ont tout inventé. Alors, je signale, parce que ça, c'est quand même important, je trouve, il y a beaucoup de bouquins à succès. Alors, ce livre-là a eu un succès énorme aux États-Unis, parce que ça a été quand même sur Amazon, pendant un moment, c'était le numéro 2 de tous les ouvrages sur la technologie, etc. Parce que sur Amazon, ce qui est intéressant, c'est surtout pas d'aller acheter des livres, surtout pas. Mais par contre, c'est d'aller regarder le classement de certains bouquins. Et ça, c'est très instructif. Et comme Amazon, maintenant, hélas, représente une part énorme du marché, on a vraiment une idée de ce qui fonctionne. Mais en France, par exemple, il y a un livre de pédagogie, soi-disant, qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant » de Céline Alvarez, qui a été numéro 1, alors la toute catégorie, pendant plusieurs mois sur Amazon. Eh bien, quand on lit Céline Alvarez, il y a marqué une seule fois, en 300 et quelques pages, Montessori. Tout ce qu'elle raconte, c'est presque tout piqué à Montessori.
Mais pas que, hein.
Pas que
c'est piqué à Freinet, c'est oui, piqué c'est... à toutes ces pédagogies-là. Voilà, elle n'a absolument rien inventé.
Elle a strictement rien inventé, mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle arrive à faire croire qu'elle a inventé plein de choses. Ouais. Et en plus, qu'elle est maltraitée par l'éducation nationale dans laquelle elle n'a pas passé tellement longtemps. Enfin bon, passons. Toujours est-il que c'est vraisemblablement une nouvelle façon d'exister sur le plan intellectuel et puis sur le plan théorique. T'écris ton bouquin, tu dis absolument pas si t'as des références, où est-ce que t'as pris tes sources, etc. Et puis d'un seul coup, on dit, ouais, mais c'est complètement nouveau et tout. Après, il faut quand même signaler que dans leur livre, il y a quand même quelque chose qui est nouveau et puis qui tient dans le sommaire, parce que le sommaire c'est quand même assez étonnant. C'est pas du tout une success story ou un truc comme ça. Ils parlent quand même de nos futures personnalités, après le futur de l'identité, de la citoyenneté, après le futur des États. les gens de Google, ils parlent de futur des États, mais là, on n'est pas au bout de nos surprises, qu'après, c'est encore pire. Ils parlent du futur de la révolution. Après, le chapitre 5, c'est le futur du terrorisme. Le chapitre 6, c'est le futur des conflits et du combat. Et le dernier chapitre, ça s'appelle le futur de la reconstruction. Donc là, on
ça
voit...
Ça fait un peu boule de cristal, tout ça, quand même.
Ah, ça fait boule de cristal à cause du futur. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que...
C'est qu'ils ont un projet, quoi.
Ah, ils ont un projet. Et puis leur projet, c'est pas seulement un projet technologique. Là, on voit que c'est carrément un projet politique, dans tous les sens du terme, quoi. C'est étonnant. Et donc, ils ne citent jamais Skinner, ils citent jamais Robert Nozick, mais ils citent jamais personne. Donc, de toute façon, ils citent que eux-mêmes. Ce qu'on peut dire sur Skinner, parce que bon, Skinner, c'est peut-être le plus connu des deux, enfin de loin même. Skinner, c'est l'inventeur du behaviorisme,
donc du comportementalisme, quoi.
Donc hein, c'est voilà, c'est l'idée que on peut pas changer la nature de l'être humain. L'être humain, il a forcément beaucoup de défauts, hein, d'après Skinner. Et donc, puisqu'on peut pas changer la nature de l'être humain, mais que d'un autre côté, il faut qu'on arrive quand même à prévoir son comportement, parce que si on peut pas prévoir son comportement, ça va être très embêtant pour les industries, pour les affaires, etc. Mais aussi à cause de la bombe atomique, parce que Skinner, il écrivait dans les années 60-70, et puis à cette époque-là, quasiment tout le monde, hein, est complètement catastrophé par la perspective de la bombe atomique, Marcuse, etc. Donc voilà. Donc pour éviter l'hiver nucléaire et aussi pour éviter la fin du système capitaliste, il faut ce qu'il appelle une technologie du comportement, et donc il faut cadrer, endiguer. Moi, je trouve que c'est endigué, je trouve que c'est le mot que je préfère, moi, parce que ça dit bien le truc. Ça peut, le niveau des eaux peut monter, mais il faut pas que ça déborde. Il faut vraiment que ça reste à l'intérieur des digues. Je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant. Parce que cadrer, ça pourrait être extrêmement autoritaire. L'endiguement, il a l'air plus doux.
Oui.
Voilà, faut pas que ça déborde. Et puis effectivement, ça semble assez logique. Faut pas que ça déborde, parce que si ça déborde, ça va aller où? Donc voilà, ça dit bien, je trouve, ce mot. Qu'est-ce qui est visé avec la technologie du comportement? Donc ça, c'est ce que veut Skinner, et c'est ce que vont expliquer Eric Schmidt et puis Jared Cohen, les deux types de Google qui ont écrit le Nouvel Âge Digital. Et puis quant à Nozick, lui. Alors il nous concerne directement, hein, puisque son ouvrage phare, ça s'appelle Anarchie, État et Utopie.
Comme ça paraît bien.
Ah bah comme ça, on voit ça, on dit ouais, c'est super, un type qui va mettre en dialogue l'anarchie et l'État. Et comme le troisième terme, c'est Utopie. C'est vrai que quand on lit le titre, on se dit bah, c'est un économiste anarchiste ou un truc comme ça, parce que anarchie, État, utopie, on se dit bon bah après tout ça va être super. Quand on lit le bouquin, c'est pas ça du tout, c'est absolument pas ça. Alors il parle beaucoup de l'anarchie, de même que Schmitt et Cohen, hein, les deux gars de Google, ils parlent beaucoup de l'anarchie, mais c'est pour dire quelque chose de très précis. Pour Nozick, les anarchistes, ils ont un argument qui est absolument fondamental. Ils disent que l'État est immoral. Là, je reprends ce que dit Nozick. Et Nozick dit, les anarchistes, ils ont raison. L'État, il est fondamentalement immoral. Mais la conclusion qu'il en tire, Nozick, a rien à voir avec l'anarchie, pour le coup, c'est il faut rendre l'État moral, et il faut arriver à mettre le curseur exactement là où il faut, pour que les anarchistes ne puissent plus critiquer l'État, mais que l'État continue subsiste, et puis même soit de plus en plus fort, en réalité. Donc, pour lui, ce qu'il faut, c'est un État minimal, mais un État minimal, faut pas se méprendre. Ça veut pas dire un moindre État, ou un État qui serait tout petit partout, hein, toi, un petit peu d'éducation, un tout petit peu, un petit peu de santé, un tout petit peu, un petit peu d'armée, un tout petit peu. Non, ça veut dire pas du tout de culture, pas du tout d'éducation, pas du tout de santé, puisque ça...
C'est le marché.
C'est le marché. Hein, c'est vrai, après tout, son truc, ça tient totalement la route, hein, c'est très cohérent, hein, son système. Par contre, pour ce qui est des forces de répression, alors là, l'État, il est plus du tout minimal.
Oui.
Là, il est plus du tout minimal. Il y a des lois répressives, il y a de l'armée, et il y a de la police, et puis si tu fais un pas de côté, ou si tu débordes des digues, là, il n'y a pas de problème, tu auras affaire à l'État, etc. Voilà. Donc, on s'aperçoit que les gens de Google, c'est exactement C'est ça qui est frappant, hein. C'est que c'est exactement ça qui prône.
Donc c'est des ultra-libéraux, quoi.
C'est des ultra-libéraux, mais pas au sens de Hayek et puis Friedman, tout ça, qui eux sont pour l'abolition, pour eux, l'État, il doit presque complètement disparaître. Nozick, c'est beaucoup plus subtil, en réalité. Alors ça fait partie de ces gens qu'on a qualifiés pendant un temps d'anarcho-capitalistes.
Ouais, c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. C'est parce que effectivement ils sont 99,99% de capitalisme. Et puis si jamais il y a 0,01% d'anarchie, c'est presque par hasard que et c'est pour servir leur raisonnement en réalité. Donc en fait il y a 100% de capitalisme et puis 0% d'anarchie, c'est ça la réalité des anarcho-capitalistes. Mais enfin bon. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, si je puis dire, c'est que la première phrase du deuxième paragraphe, donc tout de suite hein, dans l'introduction du livre de Google, la première phrase du deuxième paragraphe de Schmitt et de Cohen, c'est que l'Internet est la plus grande expérimentation de l'anarchie dans l'histoire humaine. Et ça, je trouve que quand on lit ça, de la part de gens qui ont créé Google, enfin, ou qui ont été PDG de Google, ça met quand même un doute. Mm. Tu te dis, ah bon, je ne m'étais pas aperçu que l'Internet, c'était la plus grande expérience d'anarchie dans l'histoire humaine.
Alors, peut-être au tout début, au moment du réseau, pour éviter que la connaissance soit centralisée, que tout le monde puisse échanger, que tout le monde puisse débattre, l'idée était plutôt sympathique. Après, alors, ils s'en sont emparés pour faire ce que l'on sait.
Alors, si le réseau est décentralisé, c'est pour l'armée, pour éviter le crash nucléaire, hein, parce que si tout est centralisé dans un seul endroit, et puis que les soviétiques, à l'époque, envoient une bombe atomique précisément à l'endroit où tout est centralisé, là, ça marche plus, donc c'est très embêtant. Après, effectivement, la réflexion sur Google, hein, puisque Google, ça date de 98, elle met effectivement en évidence ce que tu suggères, à savoir que on peut vraiment parler d'un premier web, et puis d'un second web qui dure. Et le premier web, c'est sans aucun doute un web où il y a quelque chose qui se passe qui est assez... a priori, qui est assez porteur, et qui va être le fait que on puisse tous s'exprimer. Puisque d'un seul coup, nos ordinateurs deviennent non seulement récepteurs, mais ils deviennent aussi émetteurs potentiels. Voilà. Bon, moi, personnellement, je trouve que même le premier web, on pouvait quand même avoir des doutes. Parce que les émetteurs potentiels, ils sont quand même pas tous anarchistes, ça se saurait. Alors, je dis pas que tous les émetteurs potentiels doivent être anarchistes, hein, c'est pas non plus ce que je pense, mais enfin, ils sont pas anarchistes, ils sont même plutôt, à l'époque, pour Chirac ou Sarkozy, etc., ou pour Bill Clinton, enfin, si on se remet dans le système de l'époque, ou pour George Bush, etc., etc. Donc, ils vivent dans des pays qui sont en rien démocratiques, que ce soit la Chine, l'Iran, les États-Unis, la France, et tout. Et donc, on voit pas par quel miracle le fait qu'on dise, maintenant, vous pouvez vous exprimer, d'un seul coup, les gens vont exprimer que des idées humanistes, révolutionnaires, positives, féministes, anti-sexistes, anti-fascistes, etc. On voit pas par quel miracle ça se serait produit.
Même si ces gens s'expriment, quel est leur auditoire?
De toute façon.
Toujours tu m'intéresses, mais de toute façon personne t'écoute, donc c'est pas grave, quoi.
De toute façon, ça, encore au début, on pouvait peut-être pas s'en apercevoir, parce qu'au début, dans les années 90, et puis même jusque vers 2005 ou un truc comme ça, je sais pas si après ils ont continué, il y avait plusieurs sociétés qui essayaient de compter le nombre de sites web qui étaient opérationnels. Je pense que maintenant, il n'y a plus personne qui sait combien il y a de sites web. Il y en a une quantité qui est absolument phénoménale. Par contre, tout le monde connaît TikTok, WhatsApp, Facebook, Google, tous les trucs de Google, etc. Donc effectivement, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Ouais, c'est aussi un peu l'image de la tour de Babel, parce qu'il y a aussi une incompréhension. Parce qu'il faudrait, et on peut pas, par exemple, si on voulait monter un site web politique, là, mettons, on voudrait monter un site web politique sur quel est le sens réellement éthique et politique du web, il faudrait commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par démocratie, qu'est-ce qu'on entend par politique, qu'est-ce qu'on entend par pouvoir, qu'est-ce qu'on entend donc par anarchie, etc. Ça serait extrêmement compliqué parce qu'on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, en 2024, et puis il n'y a pas qu'en France, c'est dans tous les pays, ça peut devenir compliqué de nous exprimer, et c'est au bout d'un quart d'heure seulement qu'on est, mettons, en train de parler de la démocratie, puis qu'on s'aperçoit qu'on a des définitions complètement différentes de la démocratie.
Oui, par exemple, un site web qui parlerait de tout ça et qui serait vraiment
visité très largement pourrait être rapidement interdit par les autorités quand ça se fait en Chine ou en Iran de temps en temps, quoi.
En plus, tout à fait, oui, ça c'est sûr. Même en France, mais enfin, mais effectivement, il suffirait de faire un petit pas de côté et puis ça irait pas.
Mmh. Parce que les États gardent la main quand même sur la diffusion, quoi. Alors, ça prouve bien que c'est pas si libre que ça, quoi.
Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y avait, cette illusion de la liberté du départ. Pour bien la mesurer aujourd'hui, puisque ça date des années 90, cette histoire-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on se replace dans le contexte des années 90. Et là, par exemple, dans mon petit bouquin, je cite Timothy Leary. Donc Timothy Leary, c'était un type qui était très connu dans les années 60-70 et pour avoir diffusé, on peut le dire, le LSD, la drogue hallucinogène. Et puis, il faisait des expériences de LSD avec ses étudiants, etc. Et pour Timothy Leary, par exemple, dans un bouquin qui aurait pu devenir culte et qu'il y a quand même pas mal d'entre nous qui l'ont lu, qui s'appelle Chaos et Cyberculture. Bah, dans Chaos et Cyberculture, pour lui, c'est absolument génial parce que le capitalisme a produit avec le web l'instrument qui allait le détruire, carrément. Bon, on voit que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et dans Timothy Leary, qui est pas un anarchiste hein, d'ailleurs, le chaos, par contre, c'est vraiment synonyme de la liberté. Voilà, le chaos est synonyme de la liberté. Donc il voit bien, il y a un truc qu'il aperçoit quand même, lui, dans les années 90. Il aperçoit que la cyberculture, donc ce qui va se développer sur le web, ça va aboutir au chaos. Et lui, il trouve ça positif. Voilà. Bon. Mais il s'aperçoit quand même que ça va aboutir au chaos. Là, on peut difficilement lui donner tort. Sauf que c'est pas le chaos que lui pensait.
Oui, c'est un chaos, si c'est un chaos d'ailleurs, hein, qui renvoie, et ça tu l'écris dès les premières pages, que c'est simplement un outil du capitalisme de conditionnement et de contrôle, quoi. Rien d'autre.
Ah oui, c'est sûr, oui. Oui, ça n'a rien à voir avec l'anarchie en réalité. Parce que c'est un chaos qui gêne, voire qui détruit les êtres humains, puis la pensée émancipatrice, parce que ça devient très compliqué, assez largement à cause de toutes ces choses qui sont répandues et puis qui sans qu'il y ait une réflexion derrière, sans qu'il y ait quelque chose qui s'appuie sur la réalité économique, la réalité politique, qu'est-ce que c'est que le pouvoir, etc. Donc on avance, on navigue à vue, et puis en naviguant à vue, c'est vraiment le chaos qui. Enfin, je pense que le système aujourd'hui, en tout cas dans un pays comme la France, on avance largement plus vers le chaos que vers l'anarchie, ça c'est sûr.
On verra. On essaie de résister.
Pour le moment, j'ai dit.
Oui, sachant que ce capitalisme du contrôle, c'est quand même aussi un capitalisme de la marchandisation. Parce que il ne s'agit pas simplement de maintenir l'État et le pouvoir de quelques-uns, c'est aussi augmenter le profit de certains.
Mmh, absolument. Bah, d'ailleurs, Google, c'est une société qui réalise des profits
considérables.
Ouais, c'est considérable. Et ça fonctionne par un système que les Anglais appellent le pay-per-click advertising. Donc ça veut dire qu'on paye, l'annonceur paye à chaque clic qu'un internaute a réalisé sur son site. C'est-à-dire que, parce que souvent on entend que si c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Ben non, on n'est pas le produit de Google. Google, il nous vend pas. En tout cas, ça serait extrêmement exagéré de dire ça. Ce que vend réellement Google, c'est le fait que, mettons, tu te balades boulevard Saint-Michel, et puis tu veux aller, t'es sur ton portable, et puis t'as donné rendez-vous avec un pote sur le boulevard Saint-Michel. Et puis donc t'es géolocalisé grâce au smartphone et puis à Android qui appartient à Google. Et le pote, il est 11h45, et puis tu lui dis bah, où est-ce qu'on va aller manger. Et le pote dit bah moi je ferais bien une pizza. Pof, 15 secondes après, enfin t'as trois pizzas qui te propose, une elle est au 42 boulevard Saint-Michel, l'autre elle est au 58, et puis il y en a une autre qui est avenue rue Monsieur le Prince, mettons. Et ben ces trois pizzas-là ont passé un contrat avec Google, et quand toi ou ton pote, vous allez réserver votre repas pour deux à la pizzeria, eh bien, la pizzeria va payer, parce que vous aurez cliqué sur la pizza. Voilà.
On veut du green, 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 green. machine. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du machine.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green washing.
Les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon, on veut du green, 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 green washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green washing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, 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 green washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 green washing. On veut du green, 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 green washing.
On veut pouvoir dire pardon, soulager son esprit.
On veut du green, 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 green washing.
On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer.
On veut du green, 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 green washing.
On veut des baleines et du thon.
On veut du green, 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 green washing.
C'est bizarre.
On veut du green, 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 green washing.
Radio Libertaire 89.4, c'était le groupe Trio avec Greenwashing.
Voilà, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, vous l'aviez compris, une émission de coproduction, si j'ose dire, entre la philosophie de l'ouvrier charpentier et les chroniques syndicales, comme on le fait régulièrement avec Philippe, qui est au fond de son lit, le vénard. Et je suis avec Philippe Godard, excusez-moi, autour d'un ouvrage publié aux éditions du Monde Libertaire, « Le pouvoir selon Google ». Avec, on y arrivera tout à l'heure, un petit guide pratique pour résister à Google. Voilà, sachant qu'on retrouve Philippe cet après-midi à partir de 16h à la librairie Publico. Il y a une chose qui est très très inquiétante dans ce que tu écris, c'est que alors non seulement Google c'est le conditionnement, Google c'est pas d'État mais beaucoup d'État d'une certaine manière, mais aussi que ça mettrait d'une certaine manière en marche une machine qui réprimerait tous ceux qui veulent justement passer la digue.
Oui, oui.
C'est-à-dire que tant qu'on est d'accord avec Google, on est quasiment tranquille. Et dès qu'on est contre Google, à côté de Google ou sans Google, on devient quasiment un ennemi du peuple.
Oui, oui, même sans Google. Voilà, parce qu'encore contre Google, à la limite, on comprend que qu'ils soient pas, enfin, qu'ils apprécient pas leurs adversaires. Mais simplement sans Google, effectivement, ça c'est compliqué. Parce que donc, je pense que dans leur bouquin là, le nouvel âge digital, qui date quand même de 2013, ça fait quand même 11 ans déjà. En 2013, ils disent déjà que si nos coordonnées web sont inhabituellement difficiles à trouver, c'est ça leur terme, eh bien, on devrait être soumis à des restrictions de déplacement. C'est aussi ça leur terme. Ils disent même qu'on devrait être inscrit, enfin que les États, parce que là, les États continueront à jouer leur rôle répressif, hein, comme le disait Nozick avec l'État minimal. Donc, les États devront nous inscrire sur une liste de terroristes. C'est fou, terroriste, enfin c'est quand même pas rien comme mot. Terroriste, simplement parce qu'on n'a pas Android et qu'on ne se sert pas de Google, c'est quand même assez fou. Et ben, qu'est-ce qui s'est produit en 2020 avec le QR code pour la pandémie, ou la prétendue pandémie, enfin peu importe, hein, parce que là pour le coup c'est plus du tout ça qui est important. Ben, ce qui s'est produit, c'est exactement ça. On a bien eu des restrictions de déplacement, et puis c'est même allé assez loin en France, parce on pouvait quand même télécharger une appli sur son smartphone pour vérifier si les autres personnes également dotées d'un smartphone étaient vaccinées ou pas. C'est quand même... oui, ça se trouve que c'est un peu... Enfin, c'est inquiétant. Bon, après, il faut quand même dire, par rapport à l'inquiétude, parce que l'inquiétude m'inquiète, hein, c'est que, vraisemblablement, enfin, il me semble que l'inquiétude, elle est peut-être arrivée à son niveau maximal. Je me demande s'il n'y a pas un reflux, en sens que, en allant voir des jeunes dans des collèges, dans les lycées professionnels, dans des dispositifs d'élèves décrocheurs, même dans des maisons d'enfants à caractère social, donc les foyers, hein, pour les enfants placés, etc. Moi, il me semble que... Alors ça, c'est un avis totalement personnel, ou c'est même pas un avis, d'ailleurs, c'est quelque chose que je ressens. Il y a une critique des réseaux sociaux. Évidemment, il y a plein de jeunes qui vont sur TikTok, mais aussi plein de jeunes qui trouvent que TikTok, c'est complètement débile. Il y a plein de jeunes qui refusent WhatsApp. Il y a plein de jeunes qui veulent plus regarder la télé parce qu'ils en ont marre de CNews et puis de BFM TV et tout. Donc, le livre le but du livre, en tout cas, n'est pas d'inquiéter. Parce que, malheureusement, je trouve qu'il y a énormément de livres qui paraissent aujourd'hui sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles formes du pouvoir, etc. Et que, on parte du principe que si on inquiète réellement le lecteur, il va réagir. Moi, je voudrais qu'on me cite des moments historiques où ce genre de choses a fonctionné. Je crois pas que ce genre de choses a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a inquiété les gens et les gens, ils ont réagi positivement, c'est-à-dire dans un sens émancipateur. Ben, en tout cas, dans l'histoire récente et pour des choses où on peut documenter réellement, je crois pas que ça ait produit ça du tout. Je pense que plus on inquiète les gens, plus les gens, donc là en l'occurrence les lecteurs, ou plus on inquiète les gens ou plus on inquiète les lecteurs, plus le lecteur va se rapprocher de ce qui va lui sembler le plus solide ou le moins fissuré au moment où il lit. Et à ce moment-là, ce qui va sembler le plus solide ou le moins fissuré, ben, ça va être plutôt l'État que de prendre le risque de l'émancipation. Alors là, ce que je dis, c'est pas ça a rien d'extraordinaire, parce que c'est exactement ce qu'explique Marcuse dans L'homme unidimensionnel. Hein. C'est donc
la recherche d'un homme fort ou d'une femme forte.
Bah, par exemple,
avoir un État fort qui va nous protéger, quoi.
Bah par exemple, même si l'État est, parce que par exemple, on peut dire aussi qu'en France aujourd'hui, l'État, selon Macron, je pense qu'on peut à peu près affirmer que l'État est moins fort que, mettons, sous De Gaulle. Bah, on peut sans doute l'affirmer pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que l'idéologie, c'est pas très très clair, alors qu'avec De Gaulle, c'était clair, etc. Mais ça empêche que, même si l'État macronien est légèrement fissuré, enfin, il faudrait regarder ça de beaucoup plus près, bah, ça empêche que le nombre de gens qui préfèrent encore l'État que le risque de l'émancipation. Et c'est bien ce qu'il disait, Marcuse. Il disait que l'État, il continue parce que les gens, ils ont peur de se libérer. La libération fait peur. Et bon, peut-être que les choses sont en train de changer. Mais en tout cas, si les choses sont en train de changer, je pense pas que ce soit à cause de l'inquiétude. Je pense que l'inquiétude, elle pousse au contraire au statu quo en réalité.
Sachant que tu dis que les choses sont en train de changer, c'est peut-être vrai ici et tant mieux. Mais on voit des choses absolument épouvantables du fait. Alors c'est pas Google en l'occurrence, c'est un autre système. C'est la notation sociale en Chine. Et Orwell à côté, c'est un petit garçon, quoi.
Ah oui, 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 ça c'est sûr. Orwell, c'est un petit garçon. Hein. D'ailleurs, puisque tu évoques Orwell et puis que je me parlais un petit peu juste avant des collèges et des lycées, 1984, c'est quand même un des bouquins qui restent les plus lus. Mais je trouve qu'il y a quelque chose il y a une incompréhension qui est absolument totale. C'est que 1984, c'est un livre politique et puis on le lit comme un livre de dystopie. Alors c'est sûr que c'est une dystopie, puisque maintenant c'est devenu un grand mot à la mode. Mais ça n'empêche qu'avant, c'est un livre politique. Et puis il faudrait replacer 1984 dans l'ensemble de l'œuvre d'Orwell, et on verrait qu'Orwell, c'est quand même pas quelqu'un qui veut abandonner la lutte. Bon, il se trouve qu'il est mort l'année d'après avoir publié 1984, mais c'est pas quelqu'un qui...
Il faut
qui
rappeler
veut...
qu'il a combattu en Espagne,
bah,
qu'il était dans un parti travailliste d'ultra-gauche, anti-autoritaire en Angleterre.
Bien sûr, et puis c'est même pendant la Seconde Guerre mondiale, et alors que la Grande-Bretagne était alliée de l'Union soviétique, il a quand même dénoncé ce qui se passait en Union soviétique, etc. Donc c'est un bouquin qui devrait être lu d'une manière politique et qui est lu malheureusement beaucoup trop d'une manière littéraire. Et cette manière littéraire de le lire, ça va plutôt inquiéter les lecteurs. C'est pour ça, moi, je pense que vraiment, il faut vraiment qu'on s'inquiète de l'inquiétude, parce qu'à force de propager des nouvelles inquiétantes partout, on va finir par renforcer le système. Ce qui ne veut absolument pas dire ne pas propager des nouvelles inquiétantes, ça ne veut pas dire que tout va bien, etc. Ça ne veut absolument pas dire ça. Ça veut simplement dire recontextualiser ce qui nous inquiète, et voir, à partir de ce contexte, comment est-ce qu'on va faire de la politique émancipatrice. C'est ça que ça veut dire, hein, c'est pas autre chose.
Oui, alors nous, politique émancipatrice, mais tu notes quand même dans ton ouvrage que ce que tu appelles les méga-entreprises, elles n'ont qu'une idée, c'est de contrôler le monde, éventuellement contrôler le monde sans les États, puisqu'elles sont suffisamment puissantes pour abolir les frontières.
Alors ça, d'une certaine manière, ça c'est évident. En tout cas, c'est au moins évident pour Google, parce que ce qui est intéressant, c'est que ils cachent pas, en fait, leurs idées. Alors, c'est sûr que pour trouver les documents sur Google et pour écrire ce bouquin, mais même pour avoir une réflexion vraiment élaborée sur Google, de toute façon, c'est sûr qu'il faut savoir parler anglais, parce qu'ils vont pas s'amuser à le traduire en français, en italien, en espagnol, pour que tout le monde puisse voir exactement ce qu'ils racontent. Ils traduisent. Il y a des choses qui sont traduites, hein, mais les choses qui sont traduites, c'est les choses qui doivent vraiment être données au grand public. Par exemple, ce qu'ils appellent leurs 10 principes philosophiques, là, qu'on peut trouver sur le web, puis que je citais en partie, mais voilà, on peut les trouver sur le web sans problème. Mais si on veut réellement comprendre leur vision politique, là, c'est sûr qu'on est obligé de lire tout ça en anglais, mais c'est pas caché, parce que je suis pas un agent secret, je suis même pas universitaire, donc j'ai pas accès à des choses auxquelles le commun des mortels, comme on dit, n'aurait pas accès. Non, pas du tout. Tout est libre. C'est-à-dire que la dictature, elle avance d'une manière cachée, mais elle avance aussi d'une manière complètement non cachée, puisque finalement, elle est totalement documentée. On n'est pas dans la Russie soviétique, dans la Chine de Mao, ou en Iran, ou etc. On n'est pas du tout là-dedans. Tout est documenté. Alors, Google, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de documentation en réalité, du coup c'est intéressant, on comprend vraiment comment ça avance. Alors précisément, si j'étais universitaire ou si j'étais au CNRS et si j'étais payé pour chercher, je pense que ça serait très intéressant de faire pareil. Le pouvoir selon Amazon, le pouvoir selon Apple, le pouvoir selon Microsoft, etc.
Ils ont à peu près tous la même philosophie, non ?
Ben non, justement, ils n'ont pas tous la même philosophie. Par exemple, dans Amazon, il y a une chose qui me semble qui saute aux yeux, c'est que Amazon, eux, c'est très très clairement remplacer l'homme par la machine, puisque les bouquins, maintenant vous savez que c'est dans des entrepôts qui sont complètement automatisés, robotisés, etc. Donc ça, mais là justement, ça serait intéressant de voir si Jeff Bezos et puis les gens qui travaillent pour lui, mais je sais pas, j'en ai aucune idée. Hein, est-ce qu'ils ont théoriser ça, parce que ça demande quand même des explications théoriques au bout d'un certain temps. Si tout est robotisé et qu'on n'est plus que des consommateurs et qu'on produit rien parce que c'est les robots qui produisent, c'est quoi l'image politique qu'il y a derrière ? Alors, il y a eu des œuvres de science-fiction là-dessus. Par exemple, Rure, un des premiers livres de science-fiction, justement, c'est des robots. Mais le Rure, ça se termine avec une révolte. Qu'est-ce que disent les gens d'Amazon de la mécanisation, robotisation intégrale ? Ça serait intéressant de le savoir. Donc là, j'avoue que je ne sais pas, même s'ils le pensent. Ça serait, et il faudrait voir pour tout. Pareil pour Nestlé et Coca-Cola au niveau de l'alimentation. Bayer et Monsanto, là pour le coup, il y a un peu plus de documents du côté de Monsanto, parce que Monsanto a dû justifier beaucoup de choses par rapport aux OGM, etc. Donc on sait un peu plus ce qu'ils pensent, mais ça serait intéressant de d'écrire un bouquin, Le pouvoir selon Bayer Monsanto, etc., etc. Puis en France, il faudrait voir aussi. Alors sans doute que là c'est peut-être beaucoup plus facile, mais la France est devenue le deuxième exportateur mondial d'armes. Il n'y a pas longtemps, hein. Il y a 3 semaines ou 1 mois que le chiffre est tombé.
Oh, ça a toujours été un grand marchand de canons.
Ça a toujours été dans les 5 premiers, quasiment. Ouais. Ça a toujours été dans les 5 premiers. Mais là, on est quand même devenu le deuxième. C'est-à-dire que le premier exportateur d'armes au monde, bien sûr, c'est les États-Unis. Mais là, on a dépassé la Russie et le journal Les Échos, que nous lisons tous
absolument,
les jours,
parce
que nous sommes abonnés, n'est-ce pas ? On a un abonnement premium. Le journal Les Échos se réjouit, bien entendu, que la France soit devenue le deuxième exportateur d'armes au monde. Ben là, c'est pareil. Ça serait intéressant de savoir, est-ce que les gens de Thalès les gens de Google, de Dassault, et puis les gens de Safran notamment, et puis aussi de Naval Group, hein, c'est les quatre principales entreprises françaises d'armement. Est-ce que ils produisent des textes précis, pas des petits trucs fumeux. Est-ce qu'ils produisent des textes précis sur une conception politique du pouvoir? Ça serait intéressant de le savoir. Est-ce que par exemple, ils sont comme Nozick pour un état minimal avec des forces de répression extrêmement fortes, mais d'un autre côté une liberté totale. Ça serait intéressant parce que là il y a vraiment quelque chose qui se passe depuis 30 ou 40 ans et c'est certain que la nature du pouvoir elle est en train de changer. Oui. Et pour revenir à ta question, parce que tu disais les grandes sociétés et tout, oui, c'est bien possible que les grandes sociétés, alors il faudrait rajouter BlackRock et puis Vanguard pour les
fonds de pension.
Les fonds de pension. Mmh. Il faudrait ajouter Goldman Sachs, qui est une banque d'affaires, qui est la banque d'affaires la plus puissante du monde avec HSBC, etc. Il faudrait voir tout ce que ces gens, toute l'image précise que ces gens ont du monde. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. De toute façon, si dans la gauche révolutionnaire, ce que les médias appellent ultra-gauche, etc., on a plusieurs tendances, hein. On n'est pas forcément tous d'accord entre nous. Faut pas croire que de l'autre côté, ils sont tous d'accord entre eux. Enfin, oui, moi, personnellement, je pense qu'ils sont pas tous d'accord entre eux.
C'est sûr.
C'est sûr. Et donc, il faudrait voir comment ça fonctionne. Alors, Google, eux, il y a une logique, hein, quand même. C'est assez logique que Google ne cache pas ce qu'ils pensent. Finalement, c'est assez logique, puisque Google, c'est quand même fondé, enfin, leur fonds de commerce, c'est quand même la transparence. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de, prenons Monsanto Bayer, BlackRock, Goldman Sachs ou Dassault. Mm. Dassault va pas expliquer le mode d'emploi du drone qu'ils sont en train de développer, qui s'appelle Neurone. Ça s'appelle Neurone. Alors, comme ils se sont aperçus que le Rafale, ça fonctionnait pas très bien, alors c'est sans doute le meilleur avion de chasse du monde d'après les spécialistes des avions de chasse. Il coûte, la dernière mouture du Rafale coûte 130 millions. D'après le ministère des Armées, un Rafale, 130 millions. Et la France en a quand même, l'armée française en a commandé, si je me souviens bien, 12 pour cette année et puis 12 encore pour l'an prochain, à 130 millions. C'est l'exemplaire.
Ouais, ça fait quelques habitations HLM, ça.
À des habitations HLM, le système de santé. Parce que le système de
l'éducation, même.
L'éducation. Mais le budget de la santé, dans le budget de cette année, c'est 2,7 milliards. 2,7 milliards, finalement, c'est le prix de 22 Rafales. De 22 rafales seulement. Et l'armée va en commander, elle va en commander 24. Ouais. C'est quand même complètement dingue. Mm. C'est complètement dingue. Donc oui, il faudrait qu'on voit exactement qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, il se passe quelque chose qui est complètement inouï et puis qu'on n'avait pas vu avant, en tout cas dans le dernier demi-siècle.
Donc ce qui est intéressant avec Google, malgré que ce soit un monstre, c'est que le projet idéologique de Google est connu, quoi. Et tu dis, du même coup, plutôt sur la fin du livre, que le contre-modèle de Google, c'est l'anarchisme.
Alors c'est ce que je dis, mais là, pour le coup, il y a au moins ça où je suis d'accord avec les gens de Google, parce que aussi, c'est ce qu'ils disent. Et alors, eux, ils ont une conception de l'anarchie au sens large. Hein. Alors, ils mettent les Anonymous, ça, c'est des anarchistes, les Anonymous.
Donc, c'est les hackers.
Est-ce qu'il faut rappeler ce que c'est que les Anonymous?
Bah, peut-être, oui, peut-être.
Parce que les Anonymous, on en entend moins parler. Donc, les Anonymous, c'est ce... Comment dire, ce groupe totalement informel de hackers qui sont arrivés à paralyser le site d'Amazon pendant plus de 24 heures, c'est quand même génial au niveau du fric que ça a dû faire perdre à l'entreprise, qui sont arrivés à rentrer dans le site du Pentagone aussi, enfin bon, et puis plein d'exploits assez remarquables, qui avait aussi engagé la guerre contre les vidéos djihadistes dans il y a une dizaine d'années, là, quand c'était quand il y avait l'État islamique à Raqqa. Donc c'est des gens c'est des hackers, mais qui ont visiblement une conception politique et on va dire apparemment comme ça pas très éloigné de l'anarchie quand même, dans le bon sens du terme, pas dans le sens du chaos. Alors ils mettent les gens de Google inclus dans les anarchistes qui sont leurs ennemis, donc les Anonymous, la plupart des hackers, et puis Julian Assange. Bon, donc, Julian Assange qui fait plein de trucs bien, mais qui est pas anarchiste, ça c'est clair. Mais eux, ils le mettent dans l'anarchie. Voilà. Je pense que comme leur livre est paru avant l'histoire de Snowden, si ça se trouve, ils mettent peut-être aussi Snowden dans l'anarchie, alors que Snowden n'est pas du tout anarchiste. Mm. Pour le coup, Snowden, il n'est pas du tout anarchiste. Lui, il a été révolté par la manière dont l'État américain prenait des données sur les citoyens du monde entier, y compris des États-Unis. Bon, alors l'anarchie est leur ennemi, ben parce que peut-être que finalement les gens de Google se sont rendus compte que les différences énormes et définitives qu'il y a entre l'anarchie et Google ne peuvent pas être réduites, quoi. C'est effectivement complètement l'inverse. C'est l'inverse parce que Google, le but de Google, c'est d'endiguer les comportements. Ça va pas être le but de l'anarchie, ça c'est sûr. Et puis le but de Google, c'est de faire passer la consommation au premier plan, hein, puisque c'est comme ça qu'ils gagnent leur sous. Et ça, c'est pas non plus le but de l'anarchie. Même si on n'est pas tous d'accord, ça empêche que c'est pas le but de l'anarchie. Le but, c'est pas la consommation.
Sachant que par ailleurs, Google, c'est un système extrêmement centralisé, quoi qu'on puisse en penser.
Ah, oui.
Contrairement à l'anarchie, c'est un système ultra décentralisé et fédéraliste, quoi.
Oui.
Donc, c'est vraiment deux conceptions du monde et de la société qui sont très, très différentes.
Oui, qui sont antithétiques, oui. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il faut absolument souligner, c'est vrai, j'oubliais, là. Il faut absolument souligner que Google, c'est, centralisé à un seul endroit, même si cette centralisation a pour vocation de s'étendre à la planète entière. Mais effectivement, mais c'est complètement centralisé.
C'est quelques dizaines ou quelques centaines d'individus qui contrôlent cette grosse machine, quoi.
Oui. Et puis, mais d'une manière cool.
Oui, on se tutoie, on est copains.
On est copains. Et puis, à un moment donné, il y a un des idéologues de Google là, qui dit, mais de toute façon, les bonnes idées, elles germent aussi dans la queue d'attente, dans la file d'attente à la cafétéria. Donc t'es là, la machine à café, t'attends, et puis ouais, ah bah tiens, j'ai une idée, tiens, on va mettre des caméras vidéo qui seront reliées à je sais pas trop quoi, etc. Donc l'idée est très cool parce qu'elle est soi-disant, enfin, l'idée est soi-disant cool parce que ça se passe devant la machine à café, mais c'est une idée de contrôle et puis d'endiguement des comportements. Mais ça fait rien parce que c'est cool, on est tous pareils finalement devant la machine à café.
Ouais. Et donc on pourrait penser un affrontement idéologique entre le système Google et la pensée anarchiste, quoi.
Oui, ah ben, alors, très modestement, j'espère que ce petit bouquin y contribue. Et puis, à dire vrai, quand j'intervenais dans les écoles, dans les collèges et les lycées pro, sur ce thème-là, c'est difficile d'aller aujourd'hui dans des établissements de l'éducation nationale et puis de parler d'anarchie. Ça, c'est relativement complexe. Hein, ça faut
bien. Ça fait longtemps, Marc.
Oui, ça fait longtemps.
C'est pas Google, ça.
Oui, ça c'est sûr. Mais ça empêche que moi, je parlais réellement de la décentralisation, le fait que ce soit éclaté, et puis de des idées anarchistes sans forcément dire le mot. Après c'était assez intéressant parce que il y avait c'est arrivé plusieurs fois que des élèves, alors ça c'était plutôt en lycée qu'en collège, me demandent mais ce que vous dites là c'est anarchiste. C'est donc en fait si on a une certaine manière de l'expliquer, enfin forcément de toute façon les mots sont manipulateurs d'une certaine manière, mais si on a une certaine manière de l'expliquer, les jeunes, et puis je pense que les adultes aussi, ils voient bien de quel côté on est. Puis effectivement, l'anarchie, c'est l'anti-Google absolu. Ça, c'est sûr.
J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corzo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé, j'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie je vais sans souci. Au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger, je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde.
C'était Boris Vian, Le Petit Commerce.
Radio Libertaire, donc, les chroniques syndicales et la philosophie de l'ouvrier charpentier, autour de Le pouvoir selon Google de Philippe Godard, que nous retrouvons à 16h cet après-midi à la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf. Il y a un autre métro que j'aime bien, c'est Filles du Calvaire. Je trouve ça super pour une librairie anarchiste. Voilà. Donc avec Philippe à 16h. Et puis, on va évoquer là pour terminer un petit guide pratique à la fin de l'ouvrage, qui est un petit guide pratique pour boycotter Google. Alors, il y a plusieurs entrées. Il y a l'entrée Android, on finira par là. Il y a l'entrée Google Ads. Ads, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs.
C'est la publicité.
Google Search, YouTube et quelques autres. Et puis, il y a un truc qui m'intéresse particulièrement, qui va peut-être participer de l'aliénation de la jeunesse, c'est Google Classroom. Alors, c'est quoi ce Google Classroom et comment s'en protéger?
Bah, finalement, c'est alors pour le moment en France, ça marche pas tellement, mais il y a déjà des gamins qui font la classe, enfin ou des profs, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, qui font la classe à travers Google avec un outil qui propose tout. Et effectivement, c'est possible technologiquement. D'ailleurs, il faut noter quelque chose qui est quand même un peu. Enfin, qui pose question. Quand c'était le ministère de l'Instruction publique, hein, qu'on était en France, donc sous la Troisième République, l'idée, c'est que on est samedi, donc les gamins sont pas à l'école. Mais mettons que on soit jeudi, et ben il est 10h. Et ben jeudi à 10h, on sait que dans toutes les écoles de France, c'était ça le rêve des ministres de l'Instruction publique à l'époque. On sait que dans toutes les écoles de France, les enfants sont en train de faire, mettons, le règne de Saint-Louis, et puis que à 14h30, ils sont tous en train de faire une dictée et que le prof leur lira un texte de, je sais pas, Alfred de Vigny, et puis voilà. Bon, ça c'était l'idée de la Troisième République. Avec la puissance des outils numériques et puis avec le web, on peut faire pareil. Et il y a dans les cours en ligne, alors à ma connaissance, parce que j'ai pas, parfois c'est difficile de trouver les chiffres les plus récents, mais à ma connaissance, le cours ayant réuni le plus grand nombre d'étudiants en ligne et donc à l'instant T, hein, pas un truc qu'on peut podcaster, ça a quand même été 120 000 étudiants en Californie. C'est énorme. C'est vrai qu'il y avait 120 000 personnes qui écoutaient un même prof. Qui forcément disait uniquement ce que lui disait. C'est fou, 120 000 personnes. Donc avec Google,
on peut faire des économies comme ça. Au lieu d'avoir un prof pour ça. 35, on a un prof pour 120 000.
Ah, puis en plus, non seulement on fait des économies, mais en plus c'est génial, parce que comme chacun est devant son écran, il n'y a pas de problème dans la cour de récréation. Il n'y a personne qui va insulter l'autre, les élèves ne vont pas se battre, etc. En plus, on fera des économies de cantine, parce que puisqu'ils sont devant leur écran, eh ben, les parents ont qu'à leur faire à manger, c'est pas la peine qu'ils aillent à la cantine, etc. etc. Ouais. Ah oui, malheureusement, ce qui est fou, c'est que le modèle, il est tout à fait plausible.
Ouais, il est tout à fait plausible. Il est double. Il risque d'uniformiser les contenus. Et donc la réflexion, donc ça c'est extrêmement grave. Et puis ça risque aussi d'alimenter un courant qui est, sur lequel je suis très critique, c'est le fait de scolariser les enfants à la maison. Parce que l'intérêt de scolariser les enfants à la maison, ça va bien quand t'es riche, que tu peux les emmener au musée, que tu peux discuter avec eux, que t'as des amis qui vont passer, qui sont ingénieurs ou je sais pas quoi. Quand tu fais partie des classes populaires, tout ce mouvement... intellectuel existe moins ou autrement à la maison, et surtout il n'y a plus de socialisation. Hein, ce qui fait qu'on va faire des gamins qui vont être complètement, alors, je sais pas comment dire, désocialisés d'une certaine manière et qui n'auront comme amis que leur écran, quoi.
Ouais,
et donc, à la fois, on peut comprendre que les gens résistent à l'éducation nationale, qui est effectivement aussi une machine à les cervoler, certainement, mais malgré tout, s'éduquer seul devant son écran, c'est peut-être encore pire.
Bah, alors, pour reprendre la première critique que tu fais sur l'uniformisation de la pensée, ça c'est absolument évident. Moi je trouve que c'est même étonnant, ces cours en ligne qui réunissent des milliers, alors sans aller jusqu'à ce cours, 120 000 étudiants, mais qui réunissent des milliers de personnes, c'est quand même étonnant. Étonnant, c'est vraiment intéressant d'écouter quelqu'un qui pense gris, l'autre, et puis après d'écouter quelqu'un qui pense gris clair, et puis après quelqu'un qui pense gris perle, et puis quelqu'un qui pense blanc, quelqu'un qui pense noir, et puis de à partir de là se faire sa propre idée en fonction de critères qui ne seront pas forcément les mêmes que celui du voisin, celui du prof, etc. Et là, l'uniformisation de la pensée, là, c'est une contradiction majeure. Même y compris pour ce système-là, à dire vrai. Parce que ce système-là, qui est quand même en crise, de toute façon, mine de rien, nous, il faut qu'on trouve des solutions pour le combattre, mais le système, lui, il faut qu'il trouve des solutions pour perdurer. Faut pas qu'on l'oublie. Et bon, on sait bien que malheureusement, la solution qu'il trouve quand il en a plus d'autres, c'est la guerre. Et on avance quand même de plus en plus vers ça. Mais en tout cas, l'uniformisation de la pensée, ça, c'est une... Je sais pas comment est-ce qu'on peut, c'est une catastrophe, enfin, dire c'est une catastrophe absolue, c'est un peu idiot parce que le mot catastrophe, maintenant, il est mis à toutes les sauces, mais c'est vraiment quelque chose qui semble complètement, destructeur, mais pour tout le monde, en fait, pour tout le monde, mais même pour ce système. Mais pourtant, c'est vers ça qu'il avance, parce qu'effectivement, c'est plus tranquille.
Oui.
Quant à l'histoire de ce que tu dis après, l'autre critique que je partage entièrement, on peut se demander, si la nouvelle trouvaille du gouvernement, là, des classes de niveau, si ça participe pas aussi de ça. Parce que les classes de niveau, ceux qui seront dans les niveaux A et puis B, eux, ça va sûrement être très intéressant pour eux. Parce que, effectivement, leurs parents, ils pourront les emmener au musée, ils pourront écouter du Schoenberg plutôt qu'écouter un truc complètement débile sur BFM TV. Bon, etc., etc. Enfin, il n'y a pas que Schoenberg, hein. C'était un exemple. Voilà.
Et, tout c'est un peu difficile à écouter Schoenberg.
Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre ça. Et puis, ceux qui seront dans les niveaux C, D, E vers le bas, ceux-là, de toute façon, ils sauront déjà qu'ils ont très peu de chances de remonter au-dessus. Donc, il y a une désespérance qui est déjà installée quand même chez une partie des jeunes, hein, ça c'est sûr. Mais il y a une désespérance qui va se renforcer.
Mais le problème, c'est qu'on n'a plus besoin des pauvres parce qu'on n'a plus besoin d'ouvriers.
Oui, oui.
Voilà. Et donc on peut les marginaliser, même intellectuellement, c'est pas vraiment très gênant.
Oui, bien sûr.
Avec la question qui se pose autour de machin classroom, on a vu les effets délétères de l'enseignement à distance et à domicile pendant la crise du Covid. Mmh. Effectivement, ceux qui avaient beaucoup d'écrans, beaucoup de livres à la maison s'en sont à peu près bien sortis. Ceux qui avaient peu d'écrans, voire pas de réseau et pas forcément un réseau culturellement ad hoc avec ce qu'attend l'éducation nationale, est en grande difficulté. Quoi. Mmh. Donc ça creuse encore les écarts, cette affaire-là.
Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il faut souligner que ça, c'est une étude de Santé publique France. Hein. Donc c'est pas du tout une étude de médecins contestataires, ou etc. C'est Santé publique France. Santé publique France souligne qu'il y a une augmentation du nombre de suicides et de tentatives de suicide chez les jeunes, mais qui devrait en faire un sujet de santé publique, mais vraiment dans les tout premiers sujets de santé publique. Parce que quand maintenant, il y a des enfants, ils ont même pas 10 ans, quand viennent à se suicider. Alors c'est quand même grave. Alors Santé publique France trace il y a trois facteurs principaux. Le premier, c'est... non, pas le premier, un des trois. Il y a le divorce des parents, il y a le chômage et les difficultés financières, mais en général, et le troisième truc, ils disent que c'est l'inquiétude, la désespérance générale, etc. à cause de le réchauffement climatique, le ci, le ça. Et effectivement, je me souviens, il y a 2 ans et demi, dans un collège de REP+, en troisième, par exemple, on est en train de faire un débat sur l'écologie, de manière générale, et il y a une fille qui me dit, mais monsieur, on vit l'apéro de l'apocalypse. L'apéro de l'apocalypse, je trouvais que la formule c'est une très belle formule. Et ce qui m'a inquiété, moi, pour le coup, c'est que la prof qui était là, et puis qui, par ailleurs, était une bonne prof, mais bon, elle était extrêmement surprise par la désespérance qui gagnait les enfants. Et ça, je trouve que c'est quand même un problème auquel on devrait s'atteler, parce qu'il n'y a aucune raison que les enfants soient désespérés. Puis si les enfants sont désespérés, c'est pas comme ça qu'on va aller vers l'émancipation. Mmh. Parce que précisément, ils vont avoir de plus en plus peur, ils vont s'inquiéter. Alors c'est sûr qu'avec des trucs comme Google Classroom, ça va pas forcément renforcer la désespérance, en tout cas ça va pas l'atténuer, mais en tout cas, ça va rendre les trucs encore plus uniformes. Donc, ça va limiter les chances qu'on aura de sortir de cette désespérance, de cette inquiétude, d'inventer des solutions. Par exemple, l'anarchie, si on faisait des débats sur l'anarchie, on pourrait essayer de penser, ça veut dire quoi, l'anarchie? Ça serait intéressant de faire des débats comme ça en classe. Mmh. Là, pas plus tard qu'au début de cette semaine, il a fallu que j'explique à des quatrièmes ce que voulait dire le mot politique. Parce que j'ai dit, bah voilà, donc j'ai organisé des débats avec cette classe de quatrième, c'était dans le Jura, dans un collège de centre-ville, mais un collège avec des élèves de tous horizons. Et j'aurais dit, bah voilà, on va se voir pendant 5 séances, et on va parler d'éthique, parce que ça sera sur la paix et sur la violence, et puis vous allez voir, l'éthique, c'est politique. Et j'aurais demandé, qu'est-ce que ça voulait dire la politique? Pour pas qu'ils se disent, la politique c'est quoi? C'est Mélenchon contre Le Pen, ou Bardella, Manon Aubry, ou Macron, ou etc. Non, ça c'est la politique politicienne. Mais du coup, la conception même du débat politique, où on va échanger des idées dans le but que la cité, donc le collectif, fonctionne, ça, même là, il faut remettre les points sur les i, parce que ce n'est plus du tout acquis. Mmh. Donc effectivement, il y a du boulot là.
Ouais. Donc, dans ce petit guide, on peut résister contre Google Classroom, mais on peut aussi résister, et là aussi c'est une question de, au moins, de liberté individuelle pour se déplacer, c'est résister contre Google Maps aussi, hein, où les gens sont plus foutus de se déplacer sans leur téléphone, quand, comme tu l'écris, il y a aussi des cartes papier. Ah, et ouais. C'est une façon d'être autonome que d'avoir des cartes papier, pas de défendre de son téléphone.
Alors là,
parce que quand ton téléphone n'a plus d'électricité, t'es bien emmerdé. Une carte papier, quand tu l'as dans ton sac, elle reste dans ton sac.
Alors là, je voudrais citer une anecdote, parce que c'est une anecdote qui est assez amusante. Donc moi, j'ai pas de smartphone. Et puis c'était dans une classe, alors là, à Paris, c'est un collège de REP+, qui est dans le 19e arrondissement, qui est situé entre la limite de Paris, enfin, entre le périph' et la limite de Paris. Je savais pas que le périph' était entièrement inclus dans Paris. J'avais découvert ça cette occasion. Donc, c'est un collège très difficile. Enfin, en tout cas, c'est considéré comme un collège difficile. Et ce que j'avais trouvé, alors l'anecdote est la suivante, et puis c'est assez amusant, c'est qu'à un moment donné, il y a un élève qui me demande, donc je lui dis, enfin, qui c'est qui a un smartphone, patati patata, donc j'avais pas de smartphone, mais il dit, mais monsieur, mais c'est n'importe quoi, comment vous avez fait pour arriver au collège, enfin, puis de toute façon, les cartes, c'est n'importe quoi, et ce qu'il faut, c'est avoir un smartphone, sans ça, on peut pas savoir où on va. Et là, moi, j'ai même pas eu le temps de répondre, il y a un élève qui a aussitôt répondu à son camarade, donc c'était dans une classe de quatrième, dans un collège de REP+, et il lui a dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, tu te rends compte qu'il y a des cartes, et puis qu'on peut demander aux gens dans la rue où est-ce qu'on va, et ça, j'ai trouvé ça, ça fait partie des choses qui te rassurent quand tu vas à l'école, et puis tu vois, c'est le gamin lui-même qui donne la bonne réponse, quoi, parce que là, pour le coup, il y a une bonne réponse. C'est vrai que le GPS, d'ailleurs, je signale aux éditeurs que quand on demande à des gamins en troisième comment fonctionne le GPS, il n'y a pas beaucoup de collégiens qui sont capables d'expliquer comment fonctionne un GPS. Là, moi, ça m'a énormément surpris, mais il n'y en a pas beaucoup qui comprennent comment ça fonctionne, la géolocalisation avec les satellites, etc. Bon, toujours est-il que j'avais trouvé absolument génial que ce gamin réponde à son collègue en lui disant « Mais non, mais c'est n'importe quoi, il y a les cartes
ouais. !» les cartes, les plans et tout ça, on voit ça pour le métro. Ouais.
Oui.
Alors, tu disais que, toujours dans ce petit guide là, où on peut résister à plein de choses, là, le plus difficile aujourd'hui, semble-t-il, ce serait résister à Android.
Oui. Là, je pense
pourquoi c'est plus difficile
C'est plus difficile parce que à cause de l'omniprésence du smartphone dans la vie très précisément de un peu plus de 75% des Français. Hein. Donc il y a à peu près 75 ou 78% des Français qui ont un smartphone.
Voire deux. Moi, je vois deux. Plein qu'en ont deux, un personnel et un pro.
Mais il y en a même qu'en ont trois. Enfin, c'est
peut-être,
fou. Non, mais c'est fou. Mais effectivement, il y en a qu'en ont deux. De toute façon, il y a plus de smartphones que d'êtres humains. On a 10 milliards de smartphones et puis.
On a 7 milliards et quelque chose.
On a 7 milliards et quelque chose. Enfin, 8, paraît-il.
Ah bon,
et puis en plus, sur les 8, il y en a plein qui n'ont pas de smartphone en plus. Mais enfin, bon. Et on est 5% en France à n'avoir ni smartphone ni téléphone portable. On n'est plus que 5%, ce qui est pas beaucoup. Mais en même temps, ce chiffre reste stable. Ça fait maintenant 5 ans que c'est 5%. Il y a pas ça ne diminue plus. Et donc résister à Android, alors comme je le mets parce que ça c'est compliqué, j'ai mis que c'était pas facile du tout mais que c'était extrêmement nécessaire. C'est ce que je pense hein, c'est que c'est extrêmement nécessaire mais que c'est pas facile du tout par exemple si on veut téléphoner
il y a plus de cabine.
Il y a plus de cabine. Voilà. Donc comme il y a plus de cabine si on doit téléphoner à quelqu'un parce que on attend quelqu'un à un rendez-vous et puis qu'il vient pas ou elle vient pas, donc on est obligé de demander à un voisin qui a un smartphone si on peut s'en servir parce qu'il y a plus de cabine. Donc là, oui, il y a un truc qui est compliqué et je pense que le point positif. Parce que ça, pour le coup, je peux en témoigner personnellement, parce que donc je travaille pour plusieurs boîtes. Enfin, en l'occurrence, c'est des maisons d'édition, mais peu importe, je travaille pour plusieurs boîtes. Donc, ça arrive très souvent qu'on me reproche de ne pas avoir de smartphone, mais je peux témoigner ici que je survis tout à fait et que ça fait absolument pas de moi quelqu'un qui est complètement largué, qui comprend rien et tout. Donc, oui, on peut, c'est tout. Alors évidemment, c'est différent. Il y a plein de choses qui s'organisent différemment. Si on donne rendez-vous à un copain, sur la place de la Bastille, devant l'Opéra Bastille, mettons, et à 10h, et puis qu'à 10h05 ou 10h10 ou à 10h15, il n'est toujours pas là, c'est sûr qu'on se demande. Et puis on ne peut pas lui téléphoner pour dire, alors t'es où, tu viens ou tu viens pas. Bon, ça, ok, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi apprendre à attendre, d'un côté? Et puis à réapprendre à être à l'heure aussi, parce que finalement être à l'heure, ça sert au moins à ça. Si on se donne rendez-vous à 10h, on essaye de pas arriver à 10h30, puis c'est tout. C'est pas non plus incommensurable. Et puis on n'est pas obligé de téléphoner toutes les 10 minutes parce que finalement les Français, les statistiques de c'est l'ADEME, je crois, qui donne ces statistiques là sur l'usage du smartphone, mais c'est inouï. On se dit vraiment là qu'il y a un problème, quoi. Les gens, ils regardent leur smartphone en moyenne toutes les 10 minutes, il y a plus de la moitié des gens quand ils vont aux toilettes, je crois que c'est 54% des gens aux toilettes, ils regardent leur smartphone. Enfin bon, il y a des choses, on se dit, mais attends, là, c'est pas possible, là, vous êtes vraiment accro.
Mais je pense que les gens sont accros.
Ah bah oui, je crois que c'est sûr.
Toi qui es jurassien, mais qui prends le métro de temps en temps, quand tu vois dans le métro parisien aujourd'hui les gens, sur 4 personnes par banquette, il y en a 3,5 qui sont sur leur écran, quoi.
Voilà. Oui.
Soit pour lire, pour le meilleur des cas, soit pour écouter, soit pour jouer. Ou pour scroller, comme on dit, ouais. Et regarder YouTube et des machins comme ça, quoi.
Et puis
c'est effrayant,
sûr,
quoi.
Puis c'est sûr qu'il y a des sites qui sont conçus exprès pour ça. TikTok, par exemple, c'est un site qui est conçu pour que les gens restent dessus. Ça, c'est évident. Mais bon, là, je pense que si échapper à Android ou échapper au smartphone ou échapper à Apple, hein, parce que là, ça pourrait donner l'impression qu'on fait la pub pour iPhone.
Ouais.
Non, c'est tout pareil. Même si y échapper semble très compliqué, je pense que c'est très important. Après, il y a aussi des gens qui sont pour un usage vertueux de cet engin, parce qu'il y a, par exemple, puisqu'il y a plus de cabine téléphonique. Et qu'il y a aussi, chez une partie de la population, une certaine, on va dire, instabilité géographique, sociale, ou etc. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir un smartphone que d'avoir un téléphone fixe si le logement il est pas très très fixe. Bon, ça, ok, mais à ce moment-là, il faudrait vraiment, je crois, qu'on en arrive tous, là il n'y a pas besoin de pensée anarchiste, qu'on arrive tous à dominer cet outil, et c'est compliqué parce que c'est un outil qui est précisément fait, non pas pour être dominé, mais pour nous dominer. Parce que ça, cet outil-là, il est vraiment fait pour nous dominer, pour le coup, vraiment.
Mmh. Oui. Mais c'est le problème de la digitalisation aussi, aujourd'hui, hein, où effectivement, on est complètement dépossédé d'un certain nombre de choses, et que si tu n'as pas un ordinateur, au moins, et un abonnement, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Mmh. Tu peux pas aller à la Sécu, tu peux pas aller à la CAF, tu peux pas aller à France Travail, comme on dit maintenant.
Ouais, France Travail.
C'est Pôle Emploi, c'est France Travail, rien de ça. Ouais. Voilà, donc ça te met vraiment en grande difficulté. Quoi.
Oui, c'est
donc
sûr.
Il faut aller dans des boutiques spécialisées ou dans des lieux spécialisés pour pouvoir avoir quelqu'un qui va te conseiller et t'aider à remplir tel ou tel document. Voilà. Sachant que il y a aussi le fait que un certain nombre de ces sites qui nous sont imposés du fait de la digitalisation sont absolument incompréhensible, quoi. On met des plombes pour prendre un billet de train, on met des plombes pour réussir à avoir un passeport, on met des plombes pour obtenir tel ou tel papier, quoi.
Ah, bah le site de l'URSSAF, si on veut s'inscrire, enfin, surtout maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs. À un moment donné, ils demandent un numéro de portable. Alors, il se trouve que je dois faire une déclaration URSSAF, non pas parce que je suis auto-entrepreneur, mais quand on est payé en droit d'auteur, il faut qu'on fasse une déclaration à l'URSSAF. Du coup, j'ai pas de site, enfin, j'ai pas de page personnelle sur le site de l'URSSAF parce que fallait mettre un numéro de portable. Donc, j'ai mis mon numéro de fixe et comme c'est un champ obligatoire et qu'ils ont réellement paramétré le truc pour que ça commence par 06 ou 07, donc du coup j'ai pas pu. Alors j'ai téléphoné à l'URSSAF par exemple et j'ai signalé le problème, ça fait déjà un an et demi. Bon, il doit pas y avoir grand monde qui a signalé ce problème parce que c'en est pas un visiblement et ils ont absolument pas paramétré autrement leur truc. Donc on est obligé d'avoir un smartphone pour s'inscrire à l'URSSAF, c'est complètement dingue. Pour prendre un autre truc qui montre la puissance du smartphone, la BPI, la Bibliothèque publique d'information de Beaubourg, où il y a des ordinateurs qui sont en accès libre avec un accès à Internet restreint, comme ils disent, mais enfin, elle est quand même très, 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 très large, il n'y a quasiment jamais personne, parce que ça ne sert plus à rien. Donc, alors qu'avant, la BPI, il fallait toujours prendre un ticket pour aller à la BPI de Beaubourg, etc., ouais, parce qu'il y avait du monde.
Ça, ouais,
il y avait la queue, parce que c'est un service public, culturel, et puis qui fonctionne, qui est drôlement intéressant. Là, il n'y a plus personne, parce que tout le monde a son smartphone, donc il n'y a aucune raison d'aller sur les ordinateurs de la BPI. Enfin, on le voit à plein d'indices.
Moi, là, l'autre jour, je passais à la BNF, hein, et un des conservateurs me disait, alors il y a une double raison, qu'à cause du Covid, pour une part, et de ces machines électroniques, ils avaient perdu 30% de leurs lecteurs.
Oh, ouais, c'est énorme. Ouais.
C'est énorme. Hein.
Ouais, c'est énorme. Ouais. Ouais. Ah non, mais c'est. De toute façon, la digitalisation du monde, bah, c'est bien ce que disent Schmitt et Cohen dans leur bouquin. Ils appellent ça le nouvel âge digital. Et on s'aperçoit en le lisant que, oui, c'est une vraie, révolution, enfin, au sens premier du terme, quoi. Il y a un bouleversement, mais qui est très, très important. Ça, c'est, de toute façon, on le voit constamment. Après, ce que je trouve d'intéressant, parce que il y a quand même des notes positives. Ce que je trouve intéressant avec les jeunes, c'est que, donc quand je vais dans des collèges ou des lycées, donc mettons des moins de 20 ans, moins de 18 ans même, c'est que la relation directe, donc humaine, elle fonctionne encore réellement. Donc il faudrait se poser la question, pour les sociologues ou les psychologues, il faudrait se poser la question, c'est quand exactement qu'il y a la bascule. Alors à ma connaissance, un des premiers qui s'est posé la question, c'est le psychothérapeute et pédopsychiatre Donald Winnicott. Lui, il disait que c'était à 23 ans, c'est assez bizarre, mais Winnicott disait que c'était à 23 ans qu'il y avait un basculement. C'est-à-dire que les gens décidaient de sortir complètement de l'enfance. Donc là, l'enfance, ce serait, pas uniquement ça évidemment, mais la caractéristique de l'enfance, ça serait l'envie d'avoir des contacts avec les êtres humains jeunes ou adultes, hein. Et puis l'âge adulte, ça serait, ben maintenant je suis rentré dans la société, j'aurai que les contacts que je veux bien, et puis sans ça j'accepterai la digitalisation, etc. Alors évidemment, à l'époque de Winnicott, il n'y avait pas d'ordinateur et puis tout ça, en tout cas pas d'ordinateur personnel. Et lui, il disait 23 ans. Je ne vais pas dire que Winnicott a raison, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, ce dont je peux témoigner à coup sûr, c'est qu'il y a réellement une appétence, ce qui n'a pas disparu, chez les collégiens, pour des contacts humains, des vraies discussions, des vrais débats, etc. Alors après, évidemment, il y a des conditions pédagogiques dans lesquelles ça doit se faire, et puis que j'essaie de poser, et puis notamment sur la liberté de parole totale, qu'on n'est pas là pour être le plus fort, le plus ci, le plus ça, mais réellement pour débattre et tout. Et puis je pense qu'ils le sentent bien, et que donc ça fonctionne. Mais en tout cas, si ça fonctionne, ça prouve que oui, ça peut continuer, ça peut continuer à fonctionner, et puis donc c'est pas le combat, il est pas complètement foutu. C'est-à-dire que c'est pas les ordinateurs, les smartphones qui ont pris le pouvoir, pas encore.
Pas encore. Voilà, on va s'arrêter là, Philippe, sachant qu'on se retrouve à 16h à la librairie Publico autour de ton livre Le pouvoir selon Google, avec ce petit guide pratique pour résister à la méga machine ou aux méga entreprises. Donc 16h à Publico, 145 rue Amelot, vous le savez, métro Fille du Calvaire ou Oberkampf. Voilà, et puis à bientôt donc.
Eh bien, à bientôt, merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Pour finir cette émission, et vous êtes bien sur 89.4, nous allons terminer cette émission avec Bernard Lavilliers, Le cœur du monde. À bientôt.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. Thank you.
vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas. Et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés. Au paradis, bien sûr. Et Saint-Pierre sera un bon patron, pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Patron qui est sourd quand un seul jeun entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, à l'écoute donc des chroniques syndicales animées par le syndicat CNT Solidarité Ouvrière de la région parisienne. Alors aujourd'hui, nous avons un ordre du jour qui va concerner le service d'aide à domicile de la société Onedla. Nous avons autour de la table Marissa, du syndicat CNT Solidarité Ouvrière, et Bridget, du syndicat CGT-SAP. Ça va être le cœur de notre intervention aujourd'hui, des entretiens qu'on